au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour, pour cette nouvelle émission au fil des pages, Canal Académie, votre radio francophone sur Internet, a le grand plaisir de recevoir Pierre Genton. Pierre Genton, bonjour.
Bonjour.
Pierre Genton, vous êtes docteur en lettres et en théologie. Vous avez été professeur émérite de langue et littérature anglaise. Vous avez dirigé un centre de recherche sur la réforme et la contre-réforme et publié plusieurs ouvrages, articles sur la réforme, la renaissance, le protestantisme. Alors justement, professeur Genton, pourquoi la réforme et la contre-réforme? Pourquoi cette période de l'histoire a-t-elle su attirer votre attention et diriger vos recherches? Êtes-vous protestant vous-même?
Oui. Par formation universitaire, je me suis orienté très tôt en l'étude du XVIe siècle, qu'il s'agisse de la littérature, de la langue et des idées. En plus, j'étais orienté par une prédisposition ou une prédestination, dirait Calvin, familiale, puisque ma famille maternelle est une vieille famille huguenote dont j'ai hérité un peu la ténacité et l'agressivité.
Que ces choses-là sont bien dites. Pierre Genton, vous venez de faire paraître aux éditions du Cerf Jean Calvin, ministre de la Parole. Alors, comment avez-vous souhaité mener votre travail pour la rédaction de ce livre si riche, foisonnant d'une magnifique érudition étourdissante? Comment avez-vous entrepris ce travail?
Vous me faites beaucoup de crédit, mais je pense qu'il était bon d'essayer, avant de cibler le personnage lui-même, de le resituer dans un ensemble, le contexte de sa civilisation, le contexte des mouvements d'idées, du bouillonnement d'idées très diverses qui agitent la période et sans lequel on ne peut pas comprendre certaines réactions de Calvin. Bien sûr, tout le monde ne peut pas avoir lu de l'humeau ou Fèvre, mais il faut avoir à l'esprit que le grand danger dans lequel risque de tomber l'historien, c'est l'anachronisme, c'est-à-dire le défaut qui consisterait à juger les réactions de nos lointains ancêtres d'après les nôtres, d'après nos critères, d'après nos idées. Donc il était nécessaire de placer Calvin dans le tableau de son époque, qui était celui d'une France, finalement, qui était de 15 à 16 millions d'habitants, et qui couvrait à peu près les deux tiers de son territoire actuel, etc. Cela ne sont que des jalons pour indiquer combien était différent le monde de Calvin du nôtre.
Vous avez essayé, écrivez-vous, de comprendre de l'intérieur le sens que Calvin donnait à sa conversion, à sa vocation. Comment avez-vous pu le suivre de l'intérieur?
C'est en effet une question difficile, et pourtant c'est une question essentielle. Et on n'est jamais bien sûr, lisant des œuvres en rétrospective, de ne pas se tromper. Cependant, il m'a semblé que, en lisant ses œuvres attentivement, ce que lui-même a dit de lui-même, très peu de choses d'ailleurs, et en lisant sa correspondance, on peut essayer de retracer, de reconstruire l'expérience religieuse qui est typique de Calvin. Alors, cette expérience religieuse, c'est d'abord une recherche. C'est un homme qui est touché par les mouvements de sensibilité religieuse de son époque, qui est touché malgré lui, étant étudiant à Orléans et à Bourges, par les mouvements contestataires, les questionnements, mais qui reste attaché à son église, à l'église traditionnelle. C'est aux alentours des années 30-32, et sans doute lors de son séjour à Bourges, qu'il vient vraiment en contact avec la problématique religieuse. On ne peut jamais en être sûr, mais ce dont on peut être certain, c'est que l'expérience religieuse de Calvin, ça a d'abord été une recherche de la certitude qui le libérait de toute angoisse par rapport à l'éternité, à son salut. Et la recherche du salut, qui est aussi une des données essentielles de cette époque et de la fin du Moyen-Âge, il l'a partagée plongé, il y a trempé, il a cherché le salut, comme ses contemporains, de différentes façons, et il l'a trouvé de la façon que j'explique dans ce livre.
Est-ce que ce n'est pas aussi la voie humaniste qui l'a mené à cette recherche de Dieu, mais par des voies moins conformistes ?
Oui, d'abord lui-même était un humaniste. Il commence son premier traité, pratiquement, c'est une édition d'un ouvrage de Sénèque, de Le De Clemencia, et c'est un humaniste, et ensuite un humaniste, n'oublions pas, formé au droit, car c'est un juriste. Il est allé à Bourges suivre les cours d'Alcia. Donc, il a imprégné la culture humaniste, et il en a fait un miel qui est tout sien, comme aurait dit Montaigne. Ceci dit, c'est d'abord un être qui a l'obsession du salut et l'obsession de la certitude de son salut. Cette certitude, il semble l'avoir eue, en tous les cas, entre les années 30-32, puisqu'en 34, il prend déjà le chemin de l'exil.
Oui, alors revenons sur le passé estudiantin de notre ami Jean Calvin. Sous la plume de Théodore de Bèze, on peut lire que l'étudiant profita tellement peu de temps qu'on ne le tenait pas pour un écolier, mais comme l'un des docteurs ordinaires. Comme aussi il était plus souvent enseigneur qu'auditeur, il lui fut offert de le passer docteur pour rien, ce que toutefois il refusa. Et vous parlez de son acharnement au travail.
Oui, il a beaucoup frappé ses contemporains. Il s'y est rendu malade, d'ailleurs. Ce que dit Bèze, nous ne pouvons pas le prouver, mais nous n'avons pas de raison de ne pas le croire. Cela impliquerait que Calvin avait déjà la maîtrise à ce moment-là et qu'il a refusé le doctorat. Il avait eu la maîtrise des arts, bien entendu. Alors, l'a-t-il eu en droit ? Ben, d'après Bèze, ce serait le cas. Bon, mais c'est un travailleur acharné qu'il a été toute sa vie jusqu'à son dernier souffle, puisque dans ses dernières années, il révise sans cesse son institution chrétienne et il rédige aussi beaucoup de pamphlets, de traités dans la controverse sur la Trinité.
Vous insistez aussi beaucoup sur son caractère liant, communicant, amical.
C'est vrai, il a cet effet de nombreux amis dans l'université, mais il était, me semble-t-il, un peu en retrait car il était excessivement timide et lui-même insiste sur sa timidité. Cependant, il avait de véritables amis, des amis d'ailleurs qui sont restés dans l'Église ancienne. Mais l'amitié, la chaleur, la sympathie qu'il avait pour les gens s'est manifestée aussi dans son action quotidienne, car c'était aussi un pasteur. Ses ouvrages théologiques éclipsent un peu son rôle pastoral, qui consistait à aider les gens à préparer des sermons, bien entendu, au moins 3 par semaine, à éduquer ses collègues qui partaient de bien bas et à accueillir des réfugiés, à se soucier de l'hygiène de la ville, morale aussi bien que concrète. Bref, c'était un homme extrêmement occupé qui se dévouait à tous avec un immense dévouement.
Alors donc, dans la période 1531, c'est à ce moment-là que Marguerite d'Alençon correspond avec Brissonnet, son miroir de l'âme, Pécheresse, s'est mis à l'index par la Sorbonne. Et donc là, on voit Calvin passer du droit à la théologie en quelque sorte. Il va prendre parti, il va prendre conscience de la rupture. Erasme n'a pas réussi à...
Non, c'est-à-dire qu'il y a dans l'Église de l'époque des réformistes et des réformateurs. Et entre le réformisme et la réformation, il y a un pas difficile à franchir, car c'est un pas coûteux. Dans ces années-là, les amis du chemin Daniel de Calvin lui conseillent même de solliciter d'un évêque un poste d'official qu'eux-mêmes ont accepté par la suite, mais que Calvin a refusé. Et non seulement il a refusé, mais il s'est éloigné de l'Église, puisque c'est en 33-34 qu'il renonce aux bénéfices qui lui servaient de bourse d'études. Et donc, il bifurque, il s'éloigne de la prêtrise, ce qui est normal, puisque déjà depuis quelques années, il s'adonnait au droit.
Alors vous dites, ce fut Melchior Volmar qui gagna Calvin aux Grecs et à Luther. Qui est ce Melchior Volmar ?
C'était un humaniste, justement, un humaniste allemand qui enseignait le grec et que la duchesse de Berry avait fait venir, et c'était déjà un luthérien, d'après ce que nous croyons savoir. Vollmer l'a appris Calvin sous son aile dans l'intention d'en faire un helléniste, mais à ce moment-là, Calvin a vraiment bifurqué sur le droit à la mort de son père et cette bifurcation, si on peut dire, cet embranchement a donné lieu à sa carrière ultérieure.
Mais vous précisez que toutefois, tout en étudiant le droit, Calvin ne laissait pas de vaquer aux saintes lettres.
Oui, en effet, c'était ce qu'il disait. D'abord, Calvin, en effet, avait publié son commentaire du De Clemencia de Sénèque. Il avait donc une formation d'humaniste parallèle à la formation de droit. Sa formation de droit lui était tombée dessus un petit peu par la volonté de son père, qui était un homme d'affaires, habile en affaires et avec beaucoup d'entre-gens, qui, après l'avoir destiné à la théologie, qui amenait de bonnes places, de bonnes prébendes, n'est-ce pas ? S'est aperçu que le droit, la comptabilité, tout ça, ça rapportait davantage. Et il avait donc demandé à son fils de faire des études de droit.
Et c'est à la mort de ce père que justement Calvin va dire qu'il va changer d'orientation. Dieu, toutefois, par sa providence secrète, me fit finalement tourner bride d'un autre côté.
Voilà, c'est ça. Il veut dire par là qu'il s'est mis à faire du droit au lieu de continuer la théologie. La théologie qui était la matière suprême, n'est-ce pas, à l'époque dans les facultés. Vous aviez la théologie, vous aviez la médecine, vous aviez le droit. La théologie, évidemment, c'est ce qui ouvrait la voie à toutes les belles carrières ecclésiastiques.
Alors, en 1532, va paraître son De Clemencia.
Oui.
Il a 23 ans seulement.
Eh oui.
Et de gros soucis financiers, vous nous expliquez.
Eh oui, parce qu'il fallait payer l'édition. Donc, disons qu'il travaillait à compte d'auteur. Et ce livre est une sorte de manuel de cours. Il a essayé de le placer auprès de ses collègues qui enseignaient Sénèque. Et il écrivait dans ce sens-là en disant, donnez-le comme livre d'études à vos étudiants pour que je puisse rentrer un peu dans mes frais.
Plongée au cœur des étoiles en compagnie de l'astrophysicienne Catherine Czarski, à la tête de prestigieux projets d'astronomie tels que le Very Large Telescope au Chili, elle a également dirigé la construction de la caméra embarquée sur le satellite ISO pour tout savoir sur la naissance des étoiles. Première femme à diriger l'Observatoire austral européen, elle est aujourd'hui présidente de l'Union astronomique internationale, membre depuis décembre 2007 de l'Académie des sciences. Canal Académie retrace le parcours d'une femme exceptionnelle dans notre émission En habit vert, une émission en libre téléchargement sur canalacademie.com.
Pierre Genton, en ouverture, en introduction de votre ouvrage paru aux éditions du Cerf, un ouvrage intitulé Jean Calvin, ministre de la parole, vous citez Lucien Febvre. À chaque civilisation, son outillage mental, bien plus, à chaque époque d'une même civilisation, à chaque progrès, soit des techniques, soit des sciences qui la caractérisent, un outillage mental renouvelé, un peu plus développé pour de certains emplois, un peu moins pour d'autres. Un outillage mental que cette civilisation, que cette époque n'est point assurée de pouvoir transmettre intégralement aux civilisations, aux époques qui vont lui succéder. Il pourra connaître des mutilations, des retours en arrière, des déformations d'importance, ou des progrès au contraire, des enrichissements, des complications nouvelles. Il vaut pour la civilisation qu'il a su forger, il vaut pour l'époque qu'il utilise, il ne vaut pas pour l'éternité, ni pour l'humanité, pas même pour le cours restreint d'une évolution interne de civilisation. Alors là, pour bien nous dire qu'à chaque soubresaut de l'humanité correspond à un contexte historique particulier et ne pas faire d'impair et de soustraire ce contexte.
Voilà, il faut éviter l'anachronisme à tout prix. Et comme nous le remarquions tout à l'heure, l'anachronisme consisterait à juger nos lointains ancêtres d'après nos critères de jugement, d'après nos sentiments, d'après nos réactions, d'après nos modes de vie. Alors, il est certain que nous partageons avec ces hommes du passé, nous partageons des angoisses communes et pas que des angoisses. Et c'est pour ça que le message de ces hommes, si nous le transposons à nous-mêmes, en rectifiant, en évitant l'écueil de l'anachronisme, nous pouvons en tirer un parti.
Ces expériences d'hommes, oui, de femmes, nous parlent aussi.
Nous parlent beaucoup. Je remarque que les sociétés occidentales d'aujourd'hui partagent des angoisses et qui sont les mêmes que celles du XVIe siècle. L'angoisse, par exemple, de la fin d'une civilisation, de la fin du monde. Les maladies, les pandémies dévastatrices de ce temps-là, c'était la peste, n'est-ce pas ? Où il y a les cataclysmes naturels, ils existaient alors. Il y a la pollution apocalyptique, elle existait aussi. Il y a les hécatombes humaines, elles existaient aussi, et animales, bien entendu. Il y a les nuées génératrices de monstres, il y a le spectre de la famille, la précarité du travail. Vous voyez, on croirait qu'on parle du 21e siècle ici. Il y a la proximité de l'infidèle, du Turc et de Mahomet. Il y a le déclin de l'éthique ancienne, il y a la multiplication des sectes, la vaticination des astrologues, la tyrannie des idéologies, vous voyez. Il y a la chasse aux sorcières aussi, il y a la diabolisation des malpensants, il y a aussi la manipulation des foules, les hystéries collectives organisées contre les gens qu'on diabolise, tout ça. On se croirait, nous renvoie au XVIe siècle, lorsqu'il y avait des processions hurlantes contre les diables de l'époque qui étaient les calvinistes.
Et Pierre Genton, vous nous dites, parce que la joie est plus volatile que la souffrance et le plaisir plus éphémère que la douleur, l'historien, lui, s'attarde plutôt aux ombres qu'aux lumières.
Et oui, c'est en effet une tendance. Ce n'est pas un reproche que je fais, bien entendu, parce qu'on peut s'attarder aux joies, mais elles sont beaucoup plus volatiles. Quand on lit Ronsard, quand on lit la poésie amoureuse du XVIe siècle, on est dans un monde plus impalpable. Tandis que lorsqu'on lit les ombres, qu'on voit la souffrance qu'il y avait, quand on voit les bûchers, l'estrapade, les horreurs qui se commettaient à l'époque, on est plus en empathie avec ça.
Quelle est la partie d'ombre de Jean Calvin ?
Eh bien, je dirais qu'il n'en a pas. Alors, même si je heurte certains
préjugés... C'est de la calvinomania, non ?
Ah non, je n'irai pas jusque-là quand même. Non, Jean Calvin était un être très, très, très timide, fragile au sens où il avait besoin d'une certitude pour étancher son angoisse. Et cet homme était aussi... mu par la certitude qu'il avait acquise, c'est-à-dire il était devenu un ministre de la parole, ce qui veut dire qu'il administrait, il était un prédicateur, il se basait sa prédication, son œuvre, sa vie, sa morale sur la parole, donc il l'administrait, mais ça veut dire aussi qu'il ne reconnaissait pour lui-même et pour les autres qu'une seule autorité, celle de la parole. Et cela veut dire qu'il nous donne un bel exemple. Car quand on voit l'œuvre qu'il a réalisée à Genève pour le bienfait de cette cité, et en dépit de tous ceux qui avaient intérêt à maintenir la cité à la fois dans l'ignorance et dans le libertinage, quand on voit l'œuvre et le courage qu'il a eu, on ne peut qu'admirer cet homme-là, car on l'a beaucoup critiqué, son rigorisme moral, mais c'était une œuvre de salut public, c'était une société malade de la prostitution, de la pauvreté, du chômage, et malade de ses riches, car ceux qui s'opposaient à Calvin, c'était des gens qui voulaient continuer à bénéficier des avantages financiers qui ruinaient la cité, et à qui finalement, Calvin et ses amis ont fini par rendre gorge. Ah, que n'existe-t-il pas aujourd'hui en France ?
Vous avez une jolie formule. Calvin, témoin d'une mutation du sacré et artisan de la transformation des mentalités qui en découlent. Cette mutation du sacré, elle était très attendue en cette fin du Moyen-Âge. C'était une aspiration.
C'était une aspiration. Ah oui, qu'on reconnaissait dans l'évolution de la piété. Bien sûr, à côté d'une piété très rituelle, presque magique, une piété qui investissait le sacré dans des objets extérieurs. Il y avait un courant qui était apparu dans la vallée du Rhin une cinquantaine d'années avant, et qu'avait bien connu Luther d'ailleurs. C'était le courant de la dévotion moderne, devotio moderna, qui consistait à intérioriser justement la piété et à chercher le sacré en soi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pouvait trouver en soi ? On pouvait en soi trouver le contact entre l'âme individuelle et le Sauveur, manifesté dans cette certitude intérieure qu'on était aimé par Dieu et par Jésus, Jésus étant la preuve de l'amour de Dieu, et que l'on recevait par un acte de foi, et c'est ce qui caractérisait donc ce mouvement de Devotio Moderna. Mouvement un peu quiétiste, vous voyez, qui ne suffisait pas peut-être pour structurer une église, mais qui a été bien présent dans l'évolution de la piété, dont Calvin s'est fait le champion.
Pour vous, Calvin, un homme de son temps, de son siècle, ou un précurseur?
Je dirais que c'est un homme de son siècle, qui a bien compris les problèmes de son siècle, problèmes religieux, problèmes de l'Église, problèmes de la société. C'est un homme de son siècle. Mais son message peut trouver des échos chez nous. On peut dire que Calvin, par sa notion d'Église, a ouvert des portes aux discussions ultérieures, bien que lui-même n'ait pas été en avance sur certains radicaux de son temps, que lui-même pourchassait. Mais Calvin avait un système d'Église qui permettait la discussion par son régime d'assemblée. Alors je crois que, aussi par l'organisation non hiérarchique de l'Église, il annonçait une structure d'ordre démocratique, bien que le mot démocratique, à cette époque-là, peut-être un sens légèrement différent. Je veux dire que par là, les assemblées qui dirigeaient les Églises, qu'on appelait les consistoires, étaient, à Genève en tous les cas, nommées en partie par le Sénat, par le gouvernement, et en partie étaient choisi parmi les membres les plus instruits.
Il n'a pas été du fait de Calvin de souhaiter de créer un schisme, une séparation avec l'Église catholique romaine. Il écrit, vous y faites référence, page 52 de votre ouvrage, « Or, nous nions que le commencement de la séparation soit venu de nous ».
Oui, tout à fait. L'Église, ou disons la papauté, a eu un rôle capital qui continue d'ailleurs à se répercuter. L'Église partait du principe qu'elle avait la vérité et elle n'a jamais mis cette notion en doute. Elle s'est refusée à faire des conciles entre les différentes tendances. Elle en a bien fait un concile, mais ça a été le concile de Trente, c'est-à-dire fait avec ses seuls partisans. Donc, on ne pouvait pas appeler ça un concile. Donc, l'Église s'est sclérosée, dogmatiquement parlant, à cette époque, a refusé toute discussion, et même si Calvin n'était pas vraiment ouvert envers certaines déviations de la réforme, cependant, son système permettait la discussion. Et il a raison dans cette citation. Il dit clairement que ce n'est pas lui qui a commencé la bagarre, c'est qu'on n'a pas voulu discuter. Et puis, ça s'est arrêté là.
Comment va-t-il participer alors à la transformation des mentalités de ses contemporains et notamment à Genève ? Genève, Jérusalem nouvelle, Jérusalem céleste, la ville de tous les possibles ?
Oui, alors là, ça, c'est une question qui serait très, très longue à développer parce qu'elle est en effet très importante. J'ai essayé de démontrer que sur la base de sa conception du sacré et de son application de la parole de Dieu, Calvin a élaboré un système au bénéfice de tous, à savoir là où il y avait le chômage, il a préconisé le travail. Là où il y avait le luxe débordant, vous savez, les bling-bling de l'époque, il a préconisé la rigueur économique. Là où il y avait, disons, le désordre à cause de la pauvreté, à cause de la débauche, il a imposé un minimum d'ordre. Je dis bien un minimum parce que le désordre a continué longtemps à exister à Genève. Mais enfin, il a fait des travaux très pratiques, ne serait-ce que concernant les fontaines ou la réglementation des marchés. Il avait même commencé son ministère par là. Oui. Donc c'était un esprit très concret, très pratique, surtout très intelligent et qui a eu le grand mérite de favoriser l'éducation des masses.
Si vous aviez à résumer en quelques mots son travail de réformateur, vers quel essentiel iriez-vous ?
Compte tenu des évolutions, des transformations que les théologies issues du christianisme ont subies, je dirais que la pensée de Calvin, pour nous, a le mérite de nous avoir ramenés aux sources et de nous y avoir ramenés avec un esprit critique. Certes, notre critique s'alimente à des connaissances que lui-même ne pouvait pas avoir, mais que ses successeurs, nous-mêmes, avons eues. Ça a été la critique biblique du XIXe siècle. Mais Calvin, pour un homme en esprit religieux, c'est avant tout un homme qui a eu la foi et qui nous donne la définition pratique de la foi. La foi, pour lui, ça consiste à faire confiance à Dieu, même quand ce Dieu nous semble hostile, comme le Dieu de Job, n'est-ce pas ? Et ça consiste à croire que, aussi noir que soit la nuit, il y a la lumière derrière, post tenebras lux.
Calvin le politique, Calvin le religieux, pour ne pas faire d'anachronisme, il était impossible à l'époque d'établir de frontières entre politique et religieux.
Ah, tout à fait. Ah, tout à fait. Le système politique, la monarchie, d'abord, était adossée au système religieux et vice-versa. Les évêques et François Ier, n'est-ce pas ? Donc, c'était deux sociétés, pour ainsi dire, la monarchie et l'Église, de secours mutuel. Bon, mais il y avait autre chose. Dans l'esprit du temps, voyez-vous, la cité, quelle qu'elle soit, catholique ou protestante, la cité devait se construire sur une base idéologique certaine. Elle devait être structurée de sorte que la confession de foi d'une cité helvétique représentait l'identité de cette cité et que quiconque déviait de cette confession était considéré non seulement comme un hérétique, mais comme un mauvais citoyen. Et donc, il devait être chassé. Mais c'est ce que faisait exactement la monarchie en France. Tout ce qui n'était pas catholique était donc accusé de sédition. Et c'est d'ailleurs pour dévier cet argument que Calvin a rédigé sa première institution chrétienne.
Pourquoi, Pierre Genton, vous situez-vous, en ayant fait publier cet ouvrage aux éditions du Cerf, Jean Calvin, ministre de la Parole, en marge des grands courants de l'historiographie calviniste?
J'ai écrit sur le protestantisme, j'ai écrit un livre sur les protestants français d'ailleurs, j'ai écrit sur les voies et les visages de la Réforme, mais Calvin, pourquoi me suis-je senti un peu en marge? Parce que les biographies que j'avais lues jusqu'à présent, je ne parle pas des toutes dernières, mais celles que j'avais lues jusqu'à présent, était soit un peu trop sympathique à Calvin, soit trop injuste envers lui. Donc, en le lisant de l'intérieur, notamment sa correspondance, mais il n'est pas expansif dans sa correspondance, mais en essayant de décrypter ses intentions, j'ai trouvé que cet homme était fondamentalement honnête, en plus d'être un homme de foi, la foi auquel je donnais le sens.
Alors justement, pour terminer, Pierre Genton, ce compagnonnage, que vous a-t-il apporté essentiellement dans votre parcours, dans votre développement, à vous tout personnel ?
Eh bien, comme vous le constatez, mon développement est presque fini maintenant. Mais
on ne sait pas jusqu'où va un développement, Pierre Genton.
Tant qu'on voit Mathusalem devant, mais il m'a réconcilié avec Calvin, d'abord. J'avais, pendant des décennies, une espèce de réserve sur Calvin parce que je le voyais un peu à travers les on-dit, à travers les préjugés qu'ont véhiculé Volens Nolens, beaucoup d'historiens. Et lorsque j'ai essayé de le comprendre dans son contexte et dans ses écrits, il m'a semblé un homme dont j'admire le courage, dont j'admire le courage notamment vis-à-vis des politiques. Et à la veille d'une grande manifestation, je crois que Calvin prendrait la tête du défilé.
Pierre Genton, le révolutionnaire et l'homme de lettres, merci d'avoir partagé ce temps de réflexion autour de Calvin et à l'occasion de cette année du jubilé.
Merci à vous.